RMC Motors avec Motorsport TV, Jean Lecroix.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Motors. Il est 13h05. On a une belle heure de sport mécanique à se partager ensemble et vous allez voir que le programme est chargé avec un retour sur un Grand Prix de Formule 1 formidable qu'on n'attendait pas. Je suis en compagnie d'Adrien Tambay. Bonjour Adrien.
Salut Jean-Luc.
En
salut
compagnie
à tous.
De Lucas Vinois. Salut Lucas.
Salut Jean-Luc. Salut
Adrien. Et puis plein de sons à venir. Mais tout de suite, nous allons voir ce qui se passe du côté du Stade Rochelet de Castres avec Nico Paolorsi. Salut Nico.
Salut messieurs. Pas de Formule 1 ici à Marcel de Flandre, mais il y en a un qui a été lancé comme un camion. Un monster truck, c'est Alex Tulou qui a inscrit le premier essai pour le Castres Olympique. Il a mis un raffut sur les 22 mètres, il a pris l'intervalle, il résiste, il explose, Arthur retire à l'impact, il passe les bras pour venir aplatir du bout des doigts le score 10-3 après la transformation d'Urda Pileta et le Castres Olympique qui est en train de réaliser un énorme coup, une énorme opération dans l'optique des barrages et de l'acception. Au top 6, il reste 8 minutes, 10-3 pour le Castres Olympique.
Merci beaucoup Nico, on te retrouve tout à l'heure pour voir l'évolution du score effectivement entre Castres et le Stade Rochelet. Vous n'étiez peut-être pas là, et c'est dommage, hein, ce matin, entre 8h et 10h, c'était le Grand Prix de Chine, et c'est bien sûr dans le rétro.
RMC Motors, dans le rétro.
C'est parti, et Sébastien Vettel a pour l'instant réussi son départ. Il va devoir batailler face à Kimi Raikkonen, qui va chercher à le prendre dès le premier virage. Et c'est Valtteri Bottas qui est passé finalement devant Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton, à son tour, a tenté de se défaire du Finlandais. Il n'y est pas parvenu pour l'instant, mais une Mercedes a réussi à revenir sur le talon d'une Ferrari. Accrochage entre Verstappen et Vettel. Verstappen était venu chercher l'Allemand, et les deux monoplaces se sont touchés. Drapeau jaune agité.
Magnifique victoire de Daniel Ricciardo, magnifique.
Sixième victoire de la carrière, le pilote de Formule 1, du pilote australien qui a été opportuniste et son équipe a bien joué. Valtteri Bottas va terminer deuxième avec la Mercedes, sauvant l'honneur de la firme à l'étoile devant Kimi Raikkonen. Et ben voilà, on vous a dit que vous auriez dû être là hein, ce matin, parce que ça, c'est juste une toute petite partie de ce qui s'est produit pendant 2 heures. Alors, avec mes deux acolytes, mes deux complices, Adrien et Lucas, je vous préviens, cette émission, je sais pas comment ça va se terminer, mais on va le faire quand même. On y croit. Alors, on va essayer de revenir sur les nombreuses évolutions, et on a des sons à vous faire entendre, bien sûr, sur les acteurs principaux de ce Grand Prix de Chine. Déjà, je vais peut-être vous rappeler le classement si vous n'étiez pas là. C'est donc l'Australien Daniel Ricciardo, comme vous l'avez compris, avec sa Red Bull Renault, qui est le vainqueur un peu surprise de ce Grand Prix. On va vous raconter comment. Il précède Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen. Par parenthèse, le podium, c'était quelque chose, avec un Australien bondissant et la banane comme d'habitude. Et puis, deux Finlandais, mais qui tiraient une tronche absolument pas possible, Iceman. Le quatrième, eh bien, c'est Lewis Hamilton, après la pénalité, on va vous dire pourquoi, également appliquée à Max Verstappen. On trouvait ensuite la Renault d'Hülkenberg, la McLaren Renault d'Alonso, au 7e rang, et puis Vettel seulement 8e, on va vous dire aussi pourquoi. Sainz 9e, et le dernier point à Magnussen, juste devant Ocon. Allez, on y revient. Adri, on revient sur la première partie de la course, peut-être la plus simple et la plus facile à commenter, en rappelant que la grille de départ, c'était les deux Ferrari devant, de Vettel et de Raikkonen, devant les deux Mercedes de Bottas et d'Hamilton.
Oui, un Kimi Raikkonen qui a essayé, tant bien que mal au premier virage, de prendre l'avantage sur son coéquipier, mais il s'est fait un peu enfermer, perdu quelques places. Sébastien Vettel est resté devant et a commencé à contrôler la course avec un Valtteri Bottas.
Pas de gros écart, hein, 2 secondes et demie, 3 secondes.
Non, mais effectivement, entre les 4-5 premiers, tout était... c'était géré pour tout le monde. Je pense qu'on avait beaucoup de questions aussi sur l'usure des pneumatiques, ouais. Et chacun voulait faire un seul arrêt dans cette course. Donc, il n'y avait pas vraiment de vrai rythme. On ne pouvait pas comprendre à 100% qui était mieux que l'autre. Et puis ensuite, les premiers arrêts, et puis la course s'est décantée.
Alors, on y revient avec toi, Lucas. On rappelle que tu vas succéder à Louis, pas remplacer, c'est impossible de remplacer Louis, mais tu vas le succéder.
Je suis dans son inspiration actuellement.
C'est ça, tu es dans le sillage, tu vas actionner le DRS à partir du Grand Prix de Monaco, et donc ce sera toi l'homme qui sera sur le terrain, mais tu as évidemment suivi ce Grand Prix comme les autres. Ce que, pour rebondir sur ce que disait Adrien, on était parti en soft, hein, et c'était la petite astuce pneumatique. Alors, du côté des Ferrari et du côté des Mercedes, c'était l'astuce de Ferrari, puisque dans la Q2, on sait que ce sont les pneumatiques retenues pour le départ, eh bien on avait rusé, on avait un peu trompé son monde, donc on partait à égalité pneumatique, on va dire, du côté des hommes en rouge et des hommes en gris.
Oui, parce que c'est deux écuries qui ont plus de rythme que les autres, donc elles peuvent se permettre ce genre de choses, et surtout on avait beaucoup de doutes sur les ultra-tendres, sur leur tenue. On parlait entre 5 et 10 tours finalement, plusieurs pilotes ont montré qu'on pouvait faire un petit peu plus de distance.
Hein. 17e tour pour Verstappen, 17e pour Ricciardo.
Et c'est quelque chose qu'on ne savait pas avant le début de la course. Donc Mercedes et Ferrari avaient décidé d'opter pour une stratégie un petit peu différente. Finalement, c'était la bonne. Sans l'intervention de cette safety car.
Et voilà, on en arrive là. Alors Adrien, si on raconte encore un petit peu la course avant d'arriver naturellement à écouter les réactions. Tout se passe normalement, je dirais, jusqu'à l'arrêt effectivement de Raikkonen, même au 27e tour, qui est l'homme de tête à ce moment-là, parce que c'est le seul de la bande des 6.
À pas s'être arrêté.
En Chine, on dit toujours bande des 4, je la refais, mais là c'est bande des 6. Donc lire les deux hommes de Ferrari, les deux hommes de Mercedes et les deux hommes de Red Bull. Et puis là, effectivement, neutralisation parce que Pierre Gasly comme une petite erreur d'estimation, hein, on le sait par rapport à Brendon Hartley, il croit que la porte est ouverte, elle ne l'est pas. Bref, on neutralise et là...
Et là, tout simplement le meilleur choix de la part de l'équipe Red Bull qui décide de faire rentrer ces deux pilotes au stand. D'ailleurs, un très bel arrêt au stand. Ils sont tous les deux rentrés dans le même tour. On appelle ça un back-to-back. Ils ont eu quelques centièmes de secondes, quelques petites secondes pour se repréparer pour l'arrêt de Ricciardo juste après l'arrêt de Verstappen. Deux arrêts parfaits. Et puis, au bon moment, puisque voilà, les deux pilotes s'en allaient des stands avec chacun un train de pneumatique neuf et soft en plus de ça, alors que tout le monde était en pneumatique médium et n'avait pas effectué d'arrêt supplémentaire, donc ils allaient devoir aller jusqu'au bout du Grand Prix avec des pneus moins performants, donc c'était en quelque sorte la voie royale, même si il restait beaucoup de pilotes à doubler sur la piste pour Ricciardo et pour Verstappen.
Voilà, alors la sortie du safety car, évidemment, elle n'est jamais programmée, elle était consécutive, on vous l'a dit, à cet accrochage entre les deux hommes de chez Toro Rosso. Bon, je pense pas qu'il y ait de séquelles non plus de ça, parce qu'on va s'expliquer, hein, c'est une petite méprise, puisque Gasly, qui était plus rapide, pensait que son équipier Hartley lui ouvrait la voie. Ça n'a pas été le cas. Il s'est engagé, ils se sont percutés. On a mis quand même un peu de carbone partout et même un rétroviseur par terre, hein, pour Pierre Gasly.
Là-dessus, si je peux donner mon avis, j'ai été dans un championnat où on était 8 pilotes pour la même marque.
Audi, on va le dire.
Et souvent, on avait, malheureusement, des ordres en course comme l'a eu aujourd'hui Brendon Hartley avec Pierre. Donc, on a donné un ordre à Brendon, apparemment. Et ils avaient convenu de se faire de changer de position dans ce virage. Or,
parce qu'il était plus rapide,
peut-être que Brendon avait pensé le faire le tour d'après, mais quand Pierre a vu la porte s'ouvrir, il pensait.
Il s'est dit c'est pour moi.
Voilà, c'est une incompréhension entre les deux, et ça m'est arrivé aussi de percuter des coéquipiers parce que je croyais que.
Tu pensais que c'était à toi de passer.
Parfois, c'est beaucoup plus simple quand on est des vrais adversaires et quand on sait à quoi s'attendre. Voilà.
Je te remercie de le souligner une nouvelle fois. Tu vas me voir venir.
C'est surtout
Si on laissait les pilotes se débrouiller entre eux, peut-être qu'on n'aurait pas ce genre de problème. Hein.
Oui, peut-être, mais ce qu'il faut remettre aussi dans son contexte, et Adrien le confirmera, c'est que on voit beaucoup les ralentis, mais sauf qu'en fait, ça se passe très très vite.
Bien sûr.
Gasly arrive, il voit la porte ouverte, il s'engouffre et paf, malheureusement, Hartley la referme. C'est une petite erreur, mais ça peut arriver.
Avant d'écouter Daniel Ricciardo, le vainqueur surprise, on peut le dire, même s'il était là, on en vient alors à ce coup de génie, puisque tout le monde avait changé de pneumatique avant. Hein, je vous le rappelle, les premiers à s'arrêter, c'était Verstappen et Ricciardo au 17e tour. On a eu ensuite Hamilton au 18e tour, Bottas au 19e, Vettel au 20e, et donc Raikkonen au 27e. Jusque-là, tout va bien. Et puis, survient le safety car à la suite de cet accrochage pour enlever tout. On regroupe tout le monde, et là, on y vient, c'est le coup de génie de Red Bull Renault où on décide de rappeler les deux pilotes.
J'ai tout de suite pensé à Raikkonen qui allait bénéficier d'un rapprochement de la grille et qui avait en plus des pneus plus récents pour finir le Grand Prix, et c'était sans compter sur le coup stratégique de Red Bull qui a joué parfaitement et qui a arrêté ces deux pilotes. On sait que sous safety car, bien sûr, on perd beaucoup moins de temps en piste puisque les voitures vont moins vite et elles sont plus ou moins neutralisées, et en plus de ça, elles devaient vraiment se trouver à un bon endroit sur la piste pour prendre la décision. Je pense que devant, au contraire, pour les trois premiers, c'était plus compliqué. Ils avaient peut-être même à un moment donné déjà dépassé l'entrée des stands. En tout cas, il y avait moins de temps pour prendre la décision, et chez Red Bull, on a été très rapide.
C'est clair. Et là, la bonne décision également, Lucas, de la direction de course, hein, on les critique assez quand elle est mauvaise. Là, il n'y avait pas d'autre chose à faire parce qu'il y avait beaucoup de carbone sur la piste. On a même vu Pierre Gasly lui-même rouler sur son propre rétroviseur au même endroit, là où il s'était accroché le tour d'avant. Donc, il fallait intervenir. On risquait des crevaisons en série.
Ah bah, Là oui, avec des pièces de carbone comme ça qui se baladent sur la piste, c'est quasiment la crevaison assurée. Donc il fallait neutraliser la course avec une safety car. Et là en plus quand ça redonne du spectacle comme ça, ce n'est que mieux pour les spectateurs.
Alors on y va progressivement. Donc vous l'avez compris et on vous l'a dit, c'est Daniel Ricciardo qui l'a emporté à la suite de cet arrêt surprise et avec une remontée. On va l'écouter. Tiens, le vainqueur du jour justement, première victoire de la saison évidemment pour lui, première victoire depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan l'an dernier. Azerbaïdjan, ça tombe bien, c'est le prochain Grand Prix. Et donc, sixième victoire de sa carrière. On écoute au micro de Louis Amar, le vainqueur du jour, Daniel Ricciardo.
C'est fou, c'est vraiment fou. J'adore ce sport, il est incroyable. Il y a tellement de hauts et de bas, c'est dingue, juste génial. Après la voiture de sécurité, j'ai compris qu'on avait une chance de revenir. C'était exactement l'opportunité qu'il nous fallait pour pouvoir gagner. Et il était hors de question de la laisser passer, d'autant que je me sentais vraiment bien dans la voiture. Dans ces conditions, tout autre résultat que la victoire m'aurait déçu. Je me suis promis de tout donner pour l'emporter aujourd'hui après cette voiture de sécurité.
In a way that I promised to myself to do everything I could to win today after that safety car.
Eh ben écoutez, ça fait plaisir d'entendre des hommes heureux en Formule 1 et là on peut dire qu'il l'était gravement parce que l'Australien, il ne cache pas ses sentiments, la banane hein, on le sait un peu comme ça qu'on le surnomme dans le paddock. Peut-être Castres conserve la banane aussi face au Stade Rochelais. On va retrouver Nico Paolorsi puisque c'est la mi-temps de ce match de rugby. On en est où Nico?
Ah bah là c'est plus une banane, c'est une pastèque hein, carrément parce qu'ils sont devant les Castrais 10-3, un essai inscrit par Alex Toulou. Le gros coup pour l'instant réalisé par le Castres Olympique qui est devant, énorme défensivement les Castrais qui ont été pourtant trois fois plus pénalisés que les Rochelais, mais ce sont bien eux qui mènent 10-3.
Merci beaucoup Nico, on te retrouve pour la deuxième mi-temps. Bien évidemment, on en revient à ce Grand Prix. Alors on a essayé de vous raconter comment on a pu en arriver à la deuxième partie de ce Grand Prix après l'effacement de la voiture de sécurité. Et là effectivement, on se retrouve avec tout le paquet, la bande des six notamment réunie, et on comprend tout de suite que le rythme, à cause des pneumatiques soft, donc les plus tendres qui ont été proposés par Pirelli ici, eh bien ça permet aux deux hommes de chez Red Bull de remonter, Adrien.
Oui, mais surtout ça permet à Max Verstappen de prendre tous les risques, peut-être un peu trop de risques avec
comme
le,
d'hab,
avec
mais
le,
c'est bien.
Avec le recul, on se dit que cette victoire, elle était avec un peu plus de réflexion, elle était pour lui puisqu'il était sur la piste devant Daniel Ricciardo.
C'est ce qu'a dit le docteur Helmut Marko. Ouais. Après, il lui a dit la victoire, elle était là pour
lui. Elle était là pour lui, sauf qu'il n'a pas su la saisir et il a été peut-être pas maladroit. Si, c'est le mot.
C'est
le mot.
C'est le mot.
Ouais, ouais, peut-être impatient. Et alors, à l'inverse de Ricciardo, qui lui a réussi à chaque fois à faire des dépassements, aussi tranchants que réfléchis, que calculés. Voilà, il a pas essayé 12 fois de dépasser chaque concurrence. Ça a
une
été
fois
à chaque
suffisait
fois.
À chaque fois.
En une fois, et net et précis. Et ça c'est devenu une très très belle victoire.
Sans pavure. Heureusement, par parenthèse, Lucas, qu'ils étaient là, les hommes de chez Red Bull. D'abord pour ce coup de stratégie. Parce qu'on n'a même pas osé, ou chez Ferrari, ou chez Mercedes, on peut peut-être le noter, et avertir les centaines de stratèges qui cogitent dans les usines, pour leur dire, eh les gars, de temps en temps, faut être un peu couillu, allez, je me permets, on est entre nous, hein, dans Motors, et il faut au moins, sur une des deux voitures, risquer une stratégie différente, tu penses pas?
Oui, alors, le problème, c'est que c'est toujours pareil. Quand vous avez la meilleure voiture, ou quasiment la meilleure voiture du plateau, vous êtes moins enclin à prendre des risques. Red Bull est un petit peu derrière en termes de performance par rapport à Ferrari et Mercedes.
Quelque chose. On est
et
d'accord.
Donc, ils se sont dit, de toute façon, on ne gagnera pas la course si on ne tente pas, donc autant tenter une stratégie différente. En revanche, ce qui est plus étonnant de la part de Ferrari, c'est que Raikkonen aurait pu lui aussi rentrer, chausser les pneumatiques tendres et se mêler à la bagarre. Il n'en a rien été et en plus derrière, il n'a pas pu remonter parce que c'était complètement impossible de doubler Valtteri Bottas à pneumatiques équivalents.
Et donc on parlait de Verstappen, audacieux, mais c'est son caractère et c'est comme ça qu'on l'aime, hein, effectivement, voire fougueux, voire impatient. On va l'écouter justement, on va écouter plus tôt d'abord Sébastien Vettel, la victime de l'accrochage, puisque les deux monoplaces sont partis en tête à queue et c'est naturellement Verstappen qui a été rendu responsable par la direction de course. Écoutons Vettel. Pour lui, la première partie de la course, il l'a dominée largement.
It happens. He came to apologize, so it's done.
Ça arrive, il est venu s'excuser, l'incident est clos. D'ailleurs, je lui ai dit, c'est bien que tu viennes me parler les yeux dans les yeux, c'est mieux que de régler ses comptes devant les médias. Ça n'est pas la première fois qu'il est impliqué dans ce genre d'incident, ça fait quand même un moment qu'il est en F1, donc je vais simplement conseiller d'être plus patient. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir continuer la course, j'ai essayé de limiter les dégâts, mais ce n'était pas simple, donc c'est dommage de terminer comme ça après un départ prometteur.
promising start.
Eh oui, d'autant qu'après, il n'avait plus la vitesse, hein, il n'avait plus probablement la monoplace capable de tenir le rythme. On l'a vu, Vettel qui a glissé dans le classement pour terminer 8e et sauver quelques points. Bon, il reste en tête du classement général provisoire du championnat du monde avec 56 points, mais Hamilton, malgré une course en demi-teinte, et on va y venir, remonte à la deuxième place, il a 45 points maintenant. Donc effectivement, Adrien, de toute façon, il n'y a pas photo. Verstappen reconnaît sa faute et vient s'excuser. On a vu l'image, hein, d'ailleurs, les deux hommes qui se tapaient sur l'épaule, bon, en disant OK, c'est la course.
Oui, une belle attitude de Max Verstappen. Je crois que il y avait que ça à faire. Ouais. Et puis c'est pas bien de. Enfin, c'est toujours bien d'être bien avec un champion du monde qu'est Vettel. On sait jamais ce qui peut se passer ensuite dans les courses.
Oui, et puis c'était logique. Hein.
Voilà,
il a fait une faute. Il a fait une faute.
Exactement. Ouais. Et puis Sébastien Vettel a accepté les excuses de Max Verstappen. Voilà.
On va l'écouter justement, Max Verstappen au micro de Louis Hamard à propos justement de cet accident avec Vettel pour lequel il a reconnu sa responsabilité.
The team did a very good job. They couldn't have done a better job today. I made mistakes myself at the end.
L'équipe a fait du super boulot, elle n'aurait pas pu mieux faire. C'est moi qui ai commis des erreurs à la fin et ça me déçoit beaucoup. Je vais avoir beaucoup de choses à analyser après cette course. Mais globalement, la voiture était bonne, notre rythme était bon, l'équipe a été bonne. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même et il faut que je revoie ce que j'ai mal fait aujourd'hui.
Eh oui, mais il faut pas lui supprimer ça, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Lucas, mais heureusement qu'on a des pilotes qui osent, qui animent les courses, qui prennent des risques. Alors, bien sûr, là, on a vu que Vettel avait un peu raté son freinage. Il a cru que c'était le moment. Il a peut-être un peu anticipé le dépassement, Verstappen, mais il avait pas de temps à perdre non plus.
Il a le défaut de ses qualités, Max Verstappen. Il est extrêmement incisif. C'est pour ça qu'on l'aime. Il est spectaculaire. Il est tout ce que les Américains veulent que la F1 redevienne.
Mais
ce
qu'on aime tous.
Et ce qu'on aime tous.
Le sport automobile. Voilà.
Mais bon, voilà. Là, il a commis une erreur. C'est comme ça, mais qui ne tente rien n'a rien et bon par exemple Bottas à Bahreïn n'a pas tenté et peut-être qu'il aurait pu passer. Voilà, Verstappen est incisif, il a fait une petite faute, ça peut arriver. Vettel le pardonne, donc tout va bien pour lui.
Voilà, l'incident est clos comme on dit dans ces cas-là. On va maintenant parler de ce safety car et peut-être entendre également, écouter plutôt des hommes qui notamment ont perdu pas mal de choses, même si sur le tapis vert avec la pénalité de Verstappen, puisqu'on lui a appliqué une pénalité de 10 secondes, logique, Hamilton récupère la 4e place, mais un Hamilton qui a fait quand même un grand prix, on va dire, sur la jambe arrière, un petit peu en demi-teinte. On va écouter ce qu'il a dit à Louis Hamard.
Je ne pouvais pas faire mieux. J'ai eu beaucoup de mal avec la voiture hier et aujourd'hui, alors que vendredi tout allait bien. Il faut vraiment qu'on essaye de comprendre, parce que ça a été un désastre pendant la course. Il faut qu'on progresse, sinon on ne gagnera pas ce championnat.
C'est un constat, hein, Adri. Effectivement, on l'a pas senti. On n'a pas retrouvé le Hamilton qu'on connaît, flamboyant, capable de tout, lui aussi d'un talent formidable. 4 titres quand même de champion du monde. Et là, c'est vrai qu'on l'a limite pas reconnu parce que Bottas l'avait déjà devancé, hein, en qualif. Et on a senti tout de suite en course qu'il allait pas être capable de faire de grandes choses.
Bah tout d'abord, oui, une Mercedes qui n'est pas aussi flamboyante qu'elle l'a été, en tout cas au premier Grand Prix de la saison, et puis toutes ces années. Et forcément, on est un peu, je pense, déstabilisé du côté de Lewis Hamilton. On se demande ce qui se passe, surtout qu'en début de week-end, en essai libre, ça fonctionnait plutôt bien. Et puis tout d'un coup, cet écart en qualification, les Ferrari qui arrivent à mettre
5
dixièmes au Mercedes. Donc forcément un peu déstabilisé, et puis un Valtteri Bottas qui lui quelque part n'est pas aussi déstabilisé que le pilote britannique, puisque voilà, c'est pas lui qui a gagné le championnat l'année dernière, et lui il est là, il a beaucoup moins de il a rien à perdre, Valtteri Bottas.
Il a tout à gagner, c'est déjà son baquet pour rester là,
effectivement,
hein.
Et voilà, en plus sur un circuit que Lewis Hamilton apprécie tout particulièrement, il a fait 6 pole positions dans le passé, on l'attendait vraiment là. Après, honnêtement, on va attendre oui, de voir, parce que l'année dernière, si on se rappelle bien, il a eu quelques grands prix où il est passé
en Russie
notamment.
Voilà, mais il y a quelques grands prix quand même parfois où Lewis Hamilton, il semble un peu perdu. Il a du mal à trouver des solutions, à répondre aux problèmes de sa monoplace.
Et je pense que tout ça est lié vraiment à l'utilisation et à la fenêtre d'utilisation des pneumatiques.
C'est clair.
Et au ressenti que
quand
peut
on
n'arrive
pas à les mettre en température.
Un Lewis Hamilton qui lui arrive à faire la différence avec sa monoplace quand il se sent bien et quand il a une voiture qui fonctionne, et puis le jour où effectivement ses pneumatiques ne fonctionnent plus, il n'a plus de ressenti et il n'arrive plus à faire la différence.
Je vous propose d'écouter Valtteri Bottas justement qui termine termine deuxième de ce Grand Prix de justesse, hein, serré de très près par la Ferrari de Kimi Raikkonen et même par la Red Bull de Verstappen, même si on sait qu'il avait la pénalité. Valtteri Bottas au micro de Louis Hamar.
Well, we had no option to do better strategy because
c'était impossible de faire un meilleur choix stratégique parce que quand la voiture de sécurité est entrée en piste, je ne pouvais plus rentrer au stand. C'était trop tard. Donc je n'ai pas eu le choix en fait, alors que les Red Bull ont pu changer de pneus. Après, j'ai tout tenté pour me défendre contre Ricardo, mais j'ai vite compris que ça serait impossible et puis il a pris l'avance très vite après m'avoir dépassé. C'est vraiment dommage parce qu'on a longtemps mené cette course qui est l'une des meilleures que j'ai faites en F1. Donc oui, j'ai un peu le sentiment qu'on nous a volé cette victoire.
Il a un peu laissé tomber aussi, hein. Enfin, moi, je vais être un peu cruel aussi. Bon, il a bien résisté, hein. Lucas, on l'a vu, il a bien résisté au retour. Il avait un pneumatique arrière droit, si je me rappelle bien, qui était marqué. Mais bon, ça, c'est la vie aussi. Bon, il a assuré cette deuxième place. Mais il n'a pas été flamboyant non plus, Bottas.
Il n'a pas été flamboyant. Maintenant, quand vous êtes face à une stratégie comme ça ou une course avec un tel rebondissement, malheureusement, vous pouvez pas faire grand-chose. Il a coupé la ligne avant que la safety car soit déployée. Derrière, les pilotes Red Bull en ont profité. Et après, quand on connaît l'écart de temps autour entre des médiums usés et des tendres qui, eux, sont neufs, il y a quasiment rien à faire. Quand on voit les zones de freinage de Ricardo, à quel point elles sont retardées, Valtteri Bottas, lui, ne peut pas freiner plus tard. Et par conséquent, il se fait dépasser.
C'est clair. Allez, avant de passer aux Français dans la deuxième partie de ce Motors, Adrien, on revient sur Ferrari. Alors, quand on a la première ligne toute rouge, effectivement, et qu'on termine troisième pour Raikkonen, et faut aller très loin, hein, Vettel huitième, on ne peut que se montrer déçu.
Ouais, oui, surtout que la voiture était performante pendant toute la course, mais encore une fois, comme Lucas l'a très bien dit, il y a quand même un fait de course qui est venu chambouler un peu la hiérarchie. On n'a pas complètement une idée, on n'a pas l'idée à 100% des performances respectives de chaque monoplace aujourd'hui, même si la Ferrari était performante, Valtteri Bottas était performant aussi, sans cette safety car, Kimi Raikkonen aurait probablement été deuxième, ou Vettel qui lui s'est accroché avec Verstappen, mais dans tous les cas c'est un peu des faits de course. On a vécu une très très belle course, par contre va falloir prendre ces résultats intrinsèquement avec des pincettes.
C'est clair, on les prenait avec des pincettes pour Ferrari aussi, rappelle-toi, les deux premiers grands prix, surtout le premier, en disant bon, il le savait, Vettel, il était pas très heureux. Le deuxième Grand Prix, il était déjà très heureux. On l'a entendu crier, hurler. Mais bon, les cris de Ricardo, ça met des frissons aussi. Parce que, effectivement, là, on l'a même vu écraser quelques larmes, hein, ce qui est rare. Bon, avant qu'il remplisse sa chaussure de champagne et qu'il la boive. Ça, c'est la tradition de l'Australien. Mais bon, c'était une belle image. Et puis, ça fait plaisir d'avoir un type comme ça sur un podium, Lucas, parce que c'est un type que tout le monde aime bien. Maintenant, où va-t-il aller? Est-ce qu'il va rester chez Red Bull? Est-ce qu'il va aller chez Ferrari, comme on le laisse entendre?
En tout cas, c'est une très bonne façon de se vendre que de remporter le Grand Prix de Chine. On sait pas, on sait qu'il est courtisé en tout cas par Ferrari. Est-ce que Raikkonen arrêtera en fin de saison? Pour l'instant, en tout cas, Raikkonen est compétitif.
Et il fait tout pour rester.
Il fait tout pour rester. On sait que Vettel et Raikkonen s'entendent très bien et que c'est important dans le choix futur de Ferrari. Mais surtout à nuancer, en tout cas, le résultat de Red Bull. Parce que certes, Red Bull a gagné, mais Red Bull reste quand même un peu derrière en termes de performance par rapport à Mercedes et Ferrari.
Allez, il est 13h27. Vous êtes bien sur RMC. Vous êtes dans Motors et c'est un vrai plaisir de revenir sur ce magnifique Grand Prix de Chine. On continue dans un instant. Vous restez avec nous.
RMC Motors. RMC Motors avec Motorsport TV, Jean-Luc Roy.
Eh ben oui, vous en voulez des sports mécaniques, vous en voulez de la Formule 1, je vous garantis que vous allez encore en avoir une belle tranche. Et on va la partager ensemble avec Adrien Tambay et avec Lucas Vinoir. Et puis également avec les sons que nous a envoyé Louis Hamar depuis la Chine, depuis Shanghai. Bah tiens, puisqu'on va parler des Français, écoutez un peu.
RMC Motors, le French's Corner.
Pas du bonheur, ça? Bon. On anticipe sur le Grand Prix de France. Je vous rappelle que ça revient au calendrier. Ce sera au mois de juin. Et ça va être un vrai bonheur de le suivre ensemble. Blague à part. On est toujours avec Adrien Tambay, avec Lucas Vidon. On va parler des Français. Alors, effectivement, on va prendre le classement dans l'ordre, hein, tout simplement. Esteban Ocon. Est-ce que, Adrien, ça n'est pas la plus mauvaise place? C'est ce qu'on dit toujours quand on est au pied du podium. Mais quand on est au pied des points, il s'est battu. Il a fait ce qu'il a pu avec sa Force India. On l'a vu. Parfois. fois dans les points et puis il finit aux portes des points.
Oui, je crois que bah, comme le montre aussi la performance de son coéquipier Sergio Pérez, les deux pilotes sont plus ou moins là où ils doivent se trouver avec la performance de leur voiture qui n'est pas aussi bonne que l'année dernière, mais ça bouge quand même hein, chez Force India. On a l'impression que le problème fondamental de mise au point et d'exploitation du potentiel de cette voiture est en train de d'éclore doucement, mais bon, un Grand Prix un peu en demi-teinte et Esteban Ocon, bon, on espère que ça va s'améliorer avec le temps.
Et oui, il avait arraché un point, vous vous en souvenez, au dernier Grand Prix. On va l'écouter, Esteban Ocon, justement, tout de suite, au micro de Louis Amar.
Bon, déjà au départ, je me fais pousser dans l'herbe, donc je perds un petit peu de temps là. Après, on était bien dans les points toute la course jusqu'au safety car. Je reste coincé derrière Romain pendant 5 ou 6 tours qui défend sa vie. Donc voilà, c'était un peu limite et j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Et voilà, c'est pour ça qu'on rentre pas dans les points aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on était quand même solide en vitesse. Il n'y a pas une voiture qui nous a doublé aujourd'hui par la piste proprement. Donc on était vraiment voilà solide en rythme et c'est ça qu'il faut retenir.
Alors effectivement, Esteban Ocon un peu déçu par le résultat. Lucas, bon, effectivement, aux portes des points, c'est dur. On lit entre les lignes. Là, effectivement, affrontement entre Français, ça prend toujours avec Romain Grosjean qui effectivement peut-être à ce moment-là était un peu moins rapide. Mais bon, c'est une course, hein, automobile aussi. Exactement. Quand on est à un endroit, on défend sa position. Il faut pas s'attendre non plus, Esteban, à ce qu'on lui déroule le tapis bleu-blanc-rouge.
Ah non, mais surtout pas. Et puis, Romain Grosjean court pour une autre écurie. Il y a aucune raison qu'il le laisse passer. Alors là, je pense qu'il réagit un petit peu sous le coup de la frustration. Ce qui est important quand même pour Esteban Ocon ce week-end, c'est qu'il termine devant son coéquipier.
De peu, mais il le fait.
Et on sait qu'il sera jugé par rapport à Sergio Pérez, qui est quand même un client dans ce championnat du monde de Formule 1. C'est un très très bon pilote qui est déjà passé par McLaren, on le rappelle, et qui a réussi à peu près partout où il est passé. Donc voilà, pour Esteban Ocon, c'est pas grave s'il n'y a pas de points. C'est peut-être un peu frustrant, c'est vrai, mais il est devant Sergio Pérez et c'est bien là l'essentiel. Toto Wolff l'avait rappelé.
Mais oui, c'est le plus important. Alors que on rappelle qu'au départ, effectivement, c'était moins bien. Hein. C'était Pérez qui était dans le top 10, lui qui était 8e. Et puis Esteban, même poussé dans l'herbe, il a fait un très bon début de course.
Oui. Et puis Sergio Pérez a eu des soucis. Bon, on a vu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fin de course, Sergio Pérez avoir l'autorisation de passer Esteban Ocon. On a donné un ordre à Esteban parce que Sergio était plus rapide. Et puis comme il n'a pas réussi à aller chercher le point de la 10e place et à doubler Kevin Magnussen, on a refait machine arrière. On a relaissé passer Esteban et réinversé les positions effectivement.
Bon, c'est toujours un peu gênant d'entendre ces choses-là. Mais bon, on essaie de mettre
la vérité. Donc on est là pour dire la vérité.
Non mais attends, c'est pas un reproche que je te fais à toi.
Mercedes l'avait fait aussi l'année dernière.
Oh mais non, mais ils le font tous. Mais je veux dire, bon, c'est toujours. Enfin bon, on a remis les choses dans l'ordre. Là aussi, passons. Et puis il y a une époque où encore une fois, on passait des panneaux dans les stands. Hein, c'était une fois par tour. Et puis les panneaux, on les voyait ou on les voyait pas. Des histoires comme ça, on en a des tonnes à raconter. Je vous propose de parler maintenant de l'homme qui a terminé effectivement 18e seulement de ce Grand Prix. Alors, il a fait l'actualité, c'est Pierre Gasly. Il l'avait faite la semaine dernière avec cette magnifique 4e place. Il est arrivé sur un petit nuage en Chine. Pas un nuage de pollution, celui-là, mais un beau nuage. Et là, Pierre, ça a été plus difficile ce week-end-là. On l'écoute au micro de Louis Amar.
Ça a été une course super difficile parce qu'on n'était pas vite du tout, on n'avait pas de vitesse. Puis ouais, il y a eu l'incident avec Brandon, c'est vraiment dommage. On avait dit avant la course qu'avec les stratégies différentes, il y a des moments où il allait falloir se laisser passer. Et ils m'ont dit à la radio qu'il allait me laisser passer au bout de la ligne droite. Et il a ralenti et quand j'y suis allé, au final, il a pris son virage comme si j'étais pas là. Et bah, c'était trop tard, une fois que j'étais à l'intérieur, je pouvais rien faire d'autre que j'essayais de freiner. Mais bon, j'ai tapé. Et du coup, il a arrêté sa course. Moi, ça m'a abîmé l'aileron et ça nous a mis nos deux courses en l'air. Donc, c'est sûr que c'était pas un bon dimanche pour nous. Et en plus, on n'avait pas de performance. Donc.
Bon, vous savez ce que je vais vous dire une nouvelle fois. Bah, si on les avait laissés se débrouiller, peut-être les deux pilotes, peut-être qu'ils se seraient mis d'accord. Là, bah oui, on lui dit, lui y croit de bonne foi. D'ailleurs, bon, il y aura pas de problème entre les pilotes, hein, puisque l'un applique les ordres. On lui dit t'es plus rapide, tu passes. L'autre n'a pas l'intention de l'appliquer tout de suite. Et puis voilà, c'est dommage.
C'est un quiproquo et c'est probablement des choses à régler au sein de la Scuderia Toro Rosso. Si on fait appel à ce genre d'ordre, il faut que ça soit bien réalisé, il faut que ça soit confirmé des deux côtés de chaque pilote avec leurs ingénieurs respectifs. Enfin, c'est un barnum. Je l'ai vécu ce genre de choses. C'est compliqué. Mais moi, je préfère voir le verre à moitié plein pour Pierre. Il sort d'un très très beau week-end à Bahreïn. d'une quatrième place.
Sublime.
Et ce week-end, bon, certes, il n'y a pas de points, ça finit loin, mais cet accrochage, il survient à un moment où ils n'avaient pas de performance avec la voiture. Ils n'allaient pas marquer de points, ils n'allaient pas être dans les points, les deux pilotes. Donc, vaut mieux que ça arrive ça, dans un Grand Prix où ça ne va pas.
Ça fait moins de gâchis.
Ça fait moins de gâchis. Bon, faut pas que ça se reproduise, mais quelque part, je pense que ça se reproduira plus. Et voilà, maintenant, faut trouver les solutions, chercher pourquoi les raisons de cette contre-performance, parce que depuis le début du week-end, la Toro Rosso n'est pas là. Je pense que ça réside encore une fois dans la température et la fenêtre d'utilisation de la
raison. Et c'était un peu mieux en course d'ailleurs, parce que c'était un petit peu plus chaud.
On va voir, mais en tout cas, ils vont se pencher là-dessus du côté de l'Italie.
Allez, on va continuer à parler des Français, notamment de Romain Grosjean, qui à un moment était dans les points. Mais d'abord, on fait un petit saut du côté du Stade Rochelet-Castres avec Nico Paolorsi. Si j'ai bien noté, c'était 10-3 pour les Castrés. C'est bien ça, hein, Nico ?
Oui, et c'est reparti depuis 5 minutes. Et déjà 3 points pour les Rochelais qui ont fait un bon début de deuxième mi-temps. Le score 10 pour Castres, 6 pour La Rochelle suite à une belle percée de Geoffrey Doumerou qui a attaqué la ligne, pris l'intervalle et permis au Stade Rochelet d'avancer. Il y a une mêlée à venir pour les Rochelais sur le 22, bien négocié avec le départ au ras de Victor Vito, 45e minute de jeu. 10-6 pour le Castres Olympique.
Merci beaucoup Nico, on te retrouve tout à l'heure pour la suite. On va parler du troisième Français et puis vous savez que, allez, je me l'attribue celui-là, on va pas dire un mot quand même, de Charles Leclerc, le monégasque, mais le francophone si vous voulez. Alors on parle d'abord de Romain, bon début de course Lucas, il était dans les points, même si un petit peu derrière son équipier, mais bon, il était là avec Magnussen, et puis à un moment apparemment il a dû repasser par les stands. Alors c'est une période où on l'a même pas vu, il a dû repasser une deuxième fois d'après ce que j'ai vu par les stands. Je crois qu'il avait un problème de frein également. En tout cas, malheureusement, une course qui ne permet pas aux pilotes français de réaliser une belle performance.
Oui, et puis il a pâti encore une fois de cette safety car. En fait, il y en a qui en ont profité et lui n'en a pas profité. Il a dû laisser passer Kevin Magnussen au début de la course qui était sur une autre stratégie et qui était donc plus rapide. Mais c'est un peu compliqué ce début de saison pour Romain Grosjean. D'un côté, la voiture, la monoplace, elle est performante, que ce soit en qualification ou en course. Mais d'un autre côté, là, après 3 Grands Prix, c'est un zéro pointé pour lui, donc c'est un petit peu compliqué. Et de l'autre côté du garage, Magnussen lui réussit bien,
forcément il prend un point.
Un peu de frustration du côté de Romain Grosjean, mais bon, la voiture est compétitive, ça va forcément sourire au bout d'un moment. Faut qu'il positive.
Adrien, tu as eu.
Ouais, c'est comme Lucas le disait, c'est compliqué à gérer pour Romain, parce que cette AS est performante, plus performante que l'année dernière, et elle n'a plus les problèmes de frein dont Romain parlait beaucoup l'année dernière. Donc quelque part, il n'y a plus beaucoup d'excuses, et Kevin Magnussen arrive à chaque fois tirer le meilleur de sa voiture.
Rapide,
et même
on savait qu'il était rapide,
même aujourd'hui, c'est un très très bon pilote, hein, on le sait. Et il s'installe dans cette écurie AS comme peut-être le numéro 1 déjà là. Pour Romain qui est quelqu'un d'un pilote avec de l'expérience et un peu plus d'âge que Kevin Magnussen, c'est pas positif en tout cas.
Non, c'est pas positif du tout pour le moment. 11 points pour Kevin Magnussen qui est 10e au championnat et malheureusement le compteur de Romain reste bloqué à 0. Alors on parle de Charles Leclerc si vous le voulez bien, on l'oublie pas, avec sa Sauber Ferrari. Bon, c'était un week-end difficile, hein. Qualifié 19e. Il y avait son équipier Ericsson derrière. Et puis en course, effectivement, on termine très loin également. Adri, un mot, mais on n'a pas pu vraiment juger de ses performances. Puis pour le moment, on a l'impression que les performances vraiment de la Sauber, Alfa Romeo, Ferrari, comme tu veux,
clairement l'écurie qui est un peu décrochée en arrière de peloton. Donc c'est compliqué pour Charles de trouver la motivation, comme à l'époque Jules Bianchi pouvait la trouver quand il se battait avec sa Marussia. Mais je crois qu'il a un exemple à suivre. Il le fait. On l'a vu être à la limite de sa monoplace tout le temps. On l'avait même vu perdre le contrôle sur la ligne droite d'arrivée.
Il peut pas faire mieux.
Il n'y a pas grand chose à dire. Et puis, devancer son coéquipier. Et puis pour nous, c'est aussi compliqué de le suivre pas à pas, puisque il est pas à l'image. Et il est aujourd'hui derrière son coéquipier.
Mais bon, c'était pour en parler de toute façon. On va parler de Renault avec toi, Lucas, parce que là, c'est beaucoup mieux, puisque les deux Renault terminent dans les points. Nico Hülkenberg, 6e. C'est plutôt évidemment très bien, compte tenu effectivement des problèmes qui ont affecté la Ferrari de Vettel, mais il est devant. Et puis Carlos Sainz, 9e. Donc les deux Renault dans les points, c'est plutôt pas mal. Et on a plaisir à voir que Renault est 5e au classement général provisoire du championnat avec 25 points, à un point seulement de McLaren Renault. Donc c'est bien pour l'équipe française.
Oui, surtout que McLaren-Renault surperforme en course par rapport à la véritable valeur de la monoplace, notamment grâce à Fernando Alonso qui lui a déjà inscrit 22 points au championnat. Alors Nico Hülkenberg, on le sait, c'est un leader dans une écurie et Cyril Abitbol comptait beaucoup sur son duo de pilotes dès le début de saison pour engranger des points et ensuite derrière attendre les améliorations sur la monoplace pour être encore plus compétitif. Mais Renault est déjà compétitif en début de saison, marque beaucoup de points, on sait que ce qui est pris n'est plus à prendre. Mais par contre, assez impressionné par Nico Hülkenberg quand même, hein, qui domine largement Carlos Sainz. On annonçait quand même que Sainz allait donner beaucoup de fil à retordre à Nico Hülkenberg. Pour l'instant, c'est quand même plutôt l'inverse.
Mais c'est bien, Adri, parce que deux pilotes qui se poussent au sein d'une même écurie, c'est vraiment l'idéal. En plus, ce sont deux types avec un bon esprit. Là aussi, je pense qu'on n'aura pas de problème de cohabitation. Maintenant, Sainz, il va falloir qu'il hausse un petit peu son niveau de jeu, c'est clair.
Oui, c'était important de toute façon pour Renault d'avoir deux pilotes de la trempe de Nico Hülkenberg et Carlos Sainz. Après, ça se joue pas non plus à beaucoup entre les deux, même si Nico Hülkenberg aujourd'hui est bien devant Carlos Sainz. Ça va être intéressant de suivre la saison et de en fonction des circuits de voir qui est plus performant que l'autre. Mais en tout cas, en ce qui concerne Renault, c'est vraiment positif d'avoir deux pilotes contrairement au passé. On sait que Renault est quand même un constructeur et c'est une écurie qui veut aller se battre quand même avec Red Bull et Mercedes et Ferrari devant. C'est un objectif d'être quatrième du championnat, mais c'est pas un objectif à moyen terme. Et à moyen terme, l'objectif c'est d'aller gagner des courses, comme il le faisait à l'époque avec Fernando Alonso entre autres. Donc c'était important d'avoir deux pilotes capables d'avoir une saine émulation et de développer une voiture dans la bonne direction, tant au niveau de ses qualités qu'au niveau du potentiel exploité de la monoplace.
Et puis je vais te dire, Renault a gagné aujourd'hui avec Red Bull. Renault, puisqu'on sait que l'équipe Red Bull se pose la question de savoir quelle va être sa motorisation 2019, puisqu'évidemment le loup japonais, je sais pas si ça existe, mais est entré dans la bergerie Toro Rosso. Donc ça veut dire qu'effectivement on va observer ce qui va se passer. On doit ou pas reconduire le contrat avec Renault ou passer chez Honda. Enfin ça c'est la suite de l'histoire. On anticipe un peu, mais c'est quand même un élément très important parce que Renault a demandé effectivement à Red Bull de se déterminer rapidement. Une belle victoire comme ça avec pas d'incident, pas de problème. Et puis Red Bull Renault 3e, 55 points. McLaren Renault 4e, 26 points. Renault 5e, c'est plutôt un beau tir groupe et c'est plutôt sympa. Allez, on fait un saut du côté de Stade Rochelet. Castres, c'était Castres qui était devant. Est-ce que c'est toujours le cas, Nico Paolersi?
C'est toujours le cas. On joue la 50e minute. Le score est toujours de 10-6. Et gros temps fort pour les Castrets là qui sont dans les 22 de La Rochelle avec cette mauvaise passe de Cocotte pour Urdapi. L'état magnifique ce que vient de faire le demi d'ouverture Castrets. Le petit contrôle du pied après cette passe envoyée dans les chaussettes par Henri Cocotte. Il contrôle du pied, il récupère le ballon et face au perche, le petit drop qui porte le score à 13-6 pour le Castres Olympique. La Rochelle est complètement dominée dans cette partie, déjoue complètement le Stade Rochelet, la pression de l'enjeu probablement, mais il n'y a pas que ça parce que Castres est vraiment très très solide dans cette partie. 13-6 pour le Castres Olympique, 50e minute de jeu.
Merci beaucoup Nico, je vous rassure, il nous reste une belle troisième ligne droite sans DRS dans Motors dans un instant, et là ça va être l'heure de Radio Paddock. Aurélien Tirsain nous a rejoint, vous allez voir, on va parler de rallye, on va parler de moto, on va parler de Formule 1 et même d'IndyCar. Tiens, le tout c'est dans Motors et c'est maintenant.
RMC jusqu'à 14h, Motors. RMC Motors avec Motorsport TV, Jean Lecroix.
Vous êtes bien dans Motors, c'est la troisième ligne droite, je vous le disais, et on va se quitter dans un petit quart d'heure maintenant pour laisser la place et le volant et le guidon à Arnaud Sourc parce qu'on va aborder Radio Paddock tout de suite.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Et c'était la voix de Lewis Hamilton hein, que vous entendiez après son titre. Là, on va voir, c'est open. On vient d'en parler. Il va falloir redresser la barre, ou plutôt le guidon aux commandes de la Mercedes pour le prochain Grand Prix, qui sera le Grand Prix d'Azerbaïdjan dans moins de 2 semaines maintenant. On vous l'a dit, c'est Radio Paddock. Radio Paddock, ça nous permet d'aborder d'autres disciplines des sports mécaniques. Et c'est avec Aurélien Tirsain. Salut Aurélien.
Salut Jean-Luc. Salut messieurs.
Salut Aurélien.
Salut Aurélien. Bon, on attaque avec le WRC.
Tiens, on va gêner.
Et on va parler de l'ordre de départ dans ces rallyes. Parce qu'à chaque fois c'est le leader du championnat du monde qui attaque, qui ouvre la route. Donc sur l'asphalte c'est plutôt pas mal, mais quand il faut attaquer la terre ou la neige, effectivement ça pose question. Et Sébastien Ogier, notre champion du monde français, a déjà eu des soucis, notamment sur le rallye de Suède. Notamment, il se plaignait de cet ordre de départ. Mais est-ce que ce serait pas finalement positif pour le championnat et le suspense en WRC parce que ça permet aussi de rééquilibrer un peu les forces en présence. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Luc?
Alors, écoute, je suis obligé de te répondre oui, mais c'est un peu à mon corps défendant parce que ça équivaudrait au fait que le pilote de Formule 1, par exemple, qui signe la pole, partent derrière de manière systématique, puisque, ou en tout cas le leader du championnat du monde, si on reprend les mêmes termes. Alors on sait que Sébastien Ogier se bat contre ça depuis toujours, hein, pratiquement, puisque c'est lui que ça pédalise, puisqu'il est 5 fois champion du monde. Donc en général, comme il mène le championnat, bah, il se retrouve effectivement à nettoyer, balayer la piste, comme tu l'évoquais. Alors sur le goudron, ça pose pas de problème. Alors je vais faire une réponse de Normand, là, une nouvelle fois. Je vais te répondre, oui, ça maintient le suspense, puisque les meilleurs ou le meilleur, on le fait partir devant, donc on avantage ceux qui se trouvent derrière, par parenthèse c'est comme ça, et que Sébastien Loeb avait obtenu l'excellent résultat au Mexique au début, puisqu'il partait loin, il avait une piste qui était bien nettoyée, nonobstant son talent, mais d'un autre côté, est-ce que c'est juste? Non, évidemment. Alors on va demander l'avis d'Adri, bien sûr.
Ouais, non, pour moi c'est pas complètement juste, parce que le meilleur doit gagner, et je vois pas pourquoi ça équivaudrait en fait à faire une balance de performance. Oui, c'est quelque chose qui existe par exemple dans les championnats de GT, où on balance les performances des voitures,
allez, on va dire,
des constructeurs,
ouais. Voilà,
des constructeurs, mais là on balance les performances du pilote. Alors non, le meilleur pilote doit, le meilleur doit gagner, ou en tout cas ne doit pas être handicapé directement.
Du coup, c'est proportionnel aussi. Les deuxièmes, enfin les meilleurs sont.
Et maintenant, c'est plus qu'un jour. Hein. Avant, c'était 2 jours sur les 3 jours du rallye. Maintenant, ça n'est plus qu'un jour. Donc, on a un peu limité ou réduit le handicap. On va dire ça comme ça.
Ouais.
Bon. Non, mais je suis d'accord. C'est injuste sportivement, Lucas.
Non, mais oui.
Je suis pas objectif parce que je suis pote avec Sébastien Ogier, donc je suis pas objectif.
Mais non, mais attends. Moi, t'as vu, je me suis fait l'avocat du diable. Hein. Je dis oui parce que ça maintient le suspense, mais non parce que sportivement, je suis évidemment d'accord avec toi, Lucas.
Ça pose problème, en effet, sur ce côté d'ouvrir la roue, de perdre du temps, etc. Maintenant, avant, il y avait aussi une autre solution. C'était la solution de la séance qualificative, qui a été
où
utilisée.
Où les pilotes choisissaient leur place de départ eux-mêmes. Hein, il y avait un forum, en quelque sorte.
Qui a été utilisée à ce moment-là, mais ça faisait forcément moins de bagarres aussi lors du rallye, puisque si les premiers, les meilleurs, voilà. Les écarts vont être très très importants. Ça a le mérite de donner un petit peu de suspense à ce championnat. Maintenant, à la fin de la saison, c'est quand même le meilleur qui gagne. Sébastien Ogier était le meilleur l'année dernière et il a remporté le championnat.
Oui, ça pose peut-être même un souci de compétitivité en WRC. Il y a pas assez de concurrence peut-être pour les tout meilleurs.
C'est là que la vraie question se pose. Peut-être que le problème il est bien en amont, et peut-être que les jeunes pilotes n'arrivent pas à avoir l'argent nécessaire pour arriver en WRC.
Voilà. Je mets le bémol. Pas trop l'argent, parce que on peut pas dire que effectivement des types, même Latvala, il a l'expérience, il a la voiture.
Moi j'en connais plein des jeunes français, des jeunes français qui arrivent pas.
Mais il y en a qui ont eu leur chance quand même.
Qui ont eu leur chance, mais il y en a plein qui n'ont pas l'argent et les ressources pour arriver au plus haut niveau. Après, c'est le sport automobile et voilà, mais on va pas rentrer dans ces débats.
On a d'autres, c'est intéressant, puis c'est bien de s'arsouiller, en plus, on est là pour ça. On a un autre débat, alors celui-là, il va mettre le feu aux poudres, là.
La MotoGP, voilà, mais sur deux roues, parce que la semaine dernière, c'était le Grand Prix d'Argentine, Termas de Riondo et
Marc,
je me suis entraîné.
J'ai entendu toute la semaine.
Et du coup, l'Espagnol Marc Marquez s'est accroché avec Valentino Rossi, qui s'est entraîné la chute de l'Italien, et il a donc pris 30 secondes de pénalité dans cette course. Il est passé de la 5e place à la 18e, donc il est sorti des points. Est-ce que ces 30 secondes là vous les jugez assez dures envers le pilote espagnol d'abord?
Alors, on replace dans le contexte, si vous voulez bien, un mot, parce que le temps file à une vitesse dramatique, mais faut déjà savoir qu'effectivement, le départ était un peu chaotique, dans la mesure où il a calé sur la grille de départ. Il y avait le seul pilote qui avait signé la pole, qui lui, c'était l'Australien Jack Miller, qui était devant. Tout le paquet était repoussé derrière. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça arrive. Et puis, il cale sur la grille, donc il pousse sa machine. On lui dit, mais non, génial. Tu pars des stands. Il part pas des stands. Il se repositionne. Bref, il prend la tête. Il creuse l'écart. Et puis là, effectivement, on lui applique la pénalité à cause de cette procédure de départ. Il repart donc dernier après être passé par les stands. Il remonte comme une balle. Et là, évidemment, à un moment, il commence à mettre un coup à Espargaro. Ça commence comme ça quand même, parce qu'il était chaud comme de la braise.
En s'excusant après, à chaque fois.
Bah oui, bien sûr.
En levant la main.
Et puis, alors moi, j'adore Marquez, hein, pour être clair. Pareil, j'adore ce type-là. Là, est-il trop dangereux? Trop dangereux, non. Dangereux dans ces cas-là, bah oui, il faut le sanctionner. Il la mérite, la sanction. Alors, on sait que même, Grossi en fait trop, mais comme toujours, lui aussi, en disant, oui, il a insulté notre sport, c'est pas possible.
Il est pas tout seul à vouloir une sanction plus dure envers Marquez.
Ouais.
Et là aussi, pour le moment, c'est le meilleur. C'est le plus rapide.
Il nous en met tellement plein les yeux et il nous procure tellement de spectacles que je suis d'accord, il faut le freiner. On est en train de le faire en lui mettant 30 secondes de pénalité.
C'est un peu différent.
Voilà, on l'a freiné en quelque sorte, mais il faut pas non plus le castrer parce que tout simplement c'est ce qu'on aime voir et des pilotes comme lui, il y en a plein en MotoGP, mais à ce niveau-là, il est incroyable.
Il était une seconde plus rapide que tout le monde pendant tout le Grand Prix, c'était génial.
Mais la MotoGP a aussi évolué, la façon de dépasser aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 10 ans, et on se rappelle qu'il y a 20 ans, quand Rossi est arrivé, il a aussi été critiqué parce qu'il était extrêmement agressif. Marquez, il est jeune, il est aussi extrêmement agressif, donc voilà, ça va rentrer dans les mœurs. Alors après, faut pas qu'il fasse tomber quelqu'un. Moi, je trouve personnellement, en tout cas, que
c'est
la
normal
manœuvre,
qu'on le sanctionne.
C'est
déjà
normal qu'on le sanctionne, mais la manœuvre de Zarco sur Pedrosa, personne n'en a parlé, mais elle est presque pire parce que Pedrosa est tombé, a fait un énorme high-side et s'est blessé.
Et il se blesse, et là on ne sait pas s'il va participer au prochain parce qu'il a été opéré du poignet, effectivement.
Mais il se blesse, il tombe un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il se fait écarter et ensuite il prend une plaque humide et il est plus en contact à ce moment-là avec Johan.
Et j'apporterai juste une légère correction parce que là aussi on adore tous Johan et on espère qu'il va gagner son Grand Prix, mais il l'a pas touché. Et bon, ça, tu me diras, c'est un détail. Il a poussé sans le toucher.
Il l'a écarté.
Voilà. Allez, on est tous d'accord sur le terme. Bon. Alors, trop dangereux. Non. Dangereux, là. Oui. Donc, bon, voilà.
Il y a quand même des pilotes comme Rossi ou Crutchlow qui disent que si dans 5 Grands Prix on continue comme ça, il n'y a plus aucun pilote sur la piste.
J'ai même entendu un truc complètement dément. C'est Kevin Schwantz. Alors qu'on l'a tous, enfin, moi, je l'ai connu, je peux vous dire. Et lui, il faisait des vagues dans tous les sens. Kevin Schwantz qui va parler de Marquez en disant il est dangereux. Alors là, c'est à mourir de rire. Bon, allez, hop, on ferme.
Troisième chapitre.
Yes.
Le Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet, donc ça sera le 24 juin. Et hier, il y avait un forum pour voir 1500 offres d'emploi. Et il y a eu plus de 7500 candidats. Un gros engouement, donc, pour ce Grand Prix de France. N'en déplaise à certains, le sport mécanique, visiblement, attire toujours autant, Jean-Luc.
Redis-le-moi, ça, c'est tellement bon.
Le sport mécanique attire toujours autant.
Merci Aurélien, mais quel bonheur. Non, mais voilà, quand il y a des sombres cires, des tristes cires, bon, je vais pas être grossier, mais j'ai failli, qui critiquent le sport mécanique, voire même qui voudraient l'interdire. Non, mais là encore une fois, laissez-nous vivre dans un chien. Donc ça veut dire que là, on crée de l'emploi, on crée de la richesse, on développe. C'est exactement l'objectif qu'avait Christian Estrosi en ramenant ce Grand Prix. Il faut lui rendre hommage. Alors, on pense ce qu'on veut et on n'est pas obligé d'être de son bord, mais je veux dire, on fait plus de politique. Là, c'est de la vraie politique concrète. On ramène le Grand Prix de France, ça crée des emplois. Bon, j'espère que parmi les 7500, il y avait au moins 1500 grid girls. Enfin, c'est ma demande personnelle. Adrien.
Oui, non, mais moi, je crois que t'as tout résumé. Hein. Là-dessus, je te suis. C'est fantastique pour la France et pour le sport automobile en général. On est une nation du sport automobile avec Renault, avec le retour de Renault en plus dans le championnat. On est aussi la nationalité la plus représentée au niveau des pilotes. Donc, le fait de ne pas avoir de Grand Prix de France, c'est tout simplement une
idée. Mais est-ce que ça peut jouer justement d'avoir autant de pilotes cette année et d'avoir cet effet, cet engouement pour la Formule 1 en
pilotes
France?
Pilotes et écurie, on a parlé de Renault tout à l'heure, mais bien sûr.
L'attente aussi. L'attente. 10 ans sans Grand Prix de France fait que forcément, quand on revient dans l'Hexagone, ça amène beaucoup de monde.
Et plus au Castellet qu'à Manicourt, du coup, c'était, les chiffres en tête, Jean-Luc.
Oui, j'ai les chiffres en tête, mais là, je veux dire, c'est un débat, tu sais, politique aussi, on le sait traditionnellement. Le Grand Prix de France était venu du Paul Ricard, où il avait été pendant très longtemps, pendant 25 ans. Ensuite, il avait migré à Manicourt pour des raisons politiques, que je ne critique pas, au contraire. Il y avait un Grand Prix de France. Il est resté de 91 à 2008, et malheureusement, 2008, ça a été la chute et l'abandon. Et moi, j'avoue que je craignais beaucoup qu'il ne revienne jamais. Mais il a fallu la volonté donc de toute une équipe autour de Christian Estrosi pour faire revenir ce Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard, parce que c'est un monsieur qui l'a construit, je le dis à chaque fois, avec son argent personnel. Je crois qu'on avait encore un petit sujet.
Un dernier mot dans Radio Paddock.
Parce qu'il y a encore des Français qui font fort.
Effectivement, en IndyCar, troisième manche du championnat à Long Beach, et au niveau des qualifications, Sébastien Bourdais n'a fait que 9e, que entre guillemets.
Ouais, tu sais qu'il avait la pole au dernier Grand Prix à Phoenix, malheureusement un mauvais ravitaillon au mauvais moment, mais bon, et qu'il a gagné la première épreuve chez lui à Saint-Pétersbourg.
Ouais, effectivement, et la belle perf, elle est pour Simon Pagenaud, qui est troisième sur la grille de départ, Alexander Rossi, l'Américain, qui a fait la pole position, donc Simon Pagenaud, une belle performance, Jean-Luc.
Ancien pilote de Formule 1, Alexander Rossi, il faut le rappeler, c'est Will Power coureur, donc du team Penske, qui est à la deuxième. Simon, tu viens de le rappeler, qui a été champion en 2016 et qui est un type formidable aussi, Adrien, on en parlait, lui qui a choisi de s'exiler aux États-Unis pour faire une carrière. C'est là aussi, Simon, bon, il a eu un petit peu de mal en début de saison, la voiture n'était pas trop au point, mais là il revient.
Bon, on est très bien représentés avec Simon et Seb, qui sont tous les deux des gars en plus géniaux. Et puis voilà, le championnat a très bien débuté pour Sébastien. Après, comme tu l'as dit, enfin une blessure l'année dernière, on n'était pas sûr. Enfin,
au qualif des 500 miles d'Indianapolis, il est en train de faire la peau là.
Qui puisse rouler même à un moment donné. Donc c'est top d'avoir les Frenchies là-bas qui sont au top du sport automobile américain.
Et puis pour mettre un coup de projecteur, et vous le savez, moi j'adore le sport automobile américain depuis très longtemps, et l'IndyCar a su se remettre en question aussi complètement en termes aéro, justement, pour retrouver justement des capacités dépassement. Alors Seb me le disait, puisque j'étais à Sebring pour ses essais initiaux, il sentait pas la voiture, il la trouvait pas, il dit on est nulle part. Ben non, tout le monde est nulle part, parce que c'est des voitures très difficiles à conduire, et ça pour des pilotes, c'est absolument formidable. Messieurs, c'était un plaisir.
Merci.
Partagé, merci. J'espère. Et on va se retrouver pour le Grand Prix, et puis Motors dimanche prochain.